Québec a devancé de quelques jours l'annonce d'un investissement de 100 millions de dollars pour des services en santé mentale. Évidemment, ça fait suite au drame de Québec, mais il y a eu quand même dans les dernières semaines, derniers mois, malheureusement, beaucoup trop de ces drames. Donc, 100 millions, un des objectifs, c'est de faire en sorte que les gens puissent consulter plus rapidement un psychologue, parce qu'on sait qu'au Québec, la liste d'attente est quand même assez substantielle. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, est avec nous. Monsieur Carman, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Des questions techniques, parce que souvent en politique, on annonce des gros chiffres, mais ce qui est important de voir, c'est comment concrètement là, ça peut améliorer l'accès. Dans le 100 millions que vous avez annoncé hier, un des principes que je comprends, c'est que vous demandez à des psychologues qui travaillent au privé de prendre des patients qui sont sur une liste d'attente publique.
Exactement, au guichet d'accès santé mentale. Et c'est des patients qui sont en attente pour des services psychologiques, soit de la psychothérapie ou autre, qui vont pouvoir être référés à des psychologues, dont l'ordre des psychologues vont nous fournir la liste région par région.
OK. Et ça veut dire qu'un citoyen, donc, vous le dirigez vers les fameux guichets d'accès en santé mentale.
Oui, la trajectoire est toujours la même. On rentre dans les services sociaux généraux, on a un premier service, par la suite, on va au guichet d'accès santé mentale. Et là, c'est là qu'il y a un gros arrêt là, de flux, là, puis des délais d'attente qui sont exagérés. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment ceux qui sont en attente pour des services de psychologue puissent aller le plus rapidement possible vers les services. Puis, on se rend compte que l'offre de services dans le réseau public est insuffisante. Donc, on est très content que les psychologues du privé viennent nous aider.
OK, mais
quand même, j'aimerais vous dire qu'à plus long terme, on travaille aussi pour rendre le travail plus attrayant pour les psychologues, pour qu'ils viennent plus dans le réseau public.
OK, mais je veux comprendre quelque chose. Les fameux guichets, là, moi, hier, je parlais avec des psychiatres et d'autres intervenants qui me disaient que l'efficacité est assez variable. Dans votre 100 millions, vous en mettez combien dans les guichets pour que ça soit vraiment fonctionnel?
Non, ça, les guichets, on les travaille en parallèle. C'est déjà un travail qu'on est en train de faire. On est en train d'arrimer ce qu'on appelle le CRDS, là, le Centre de réception des services spécialisés, pour que ça fonctionne avec le guichet d'accès en santé mentale. Puis avant, comme je disais, on n'avait pas de données centralisées sur les guichets d'accès en santé mentale. Donc, tout était un petit peu fait région par région de façon différente et non centralisée. Là, depuis un an, on a centralisé ces données, puis on fait un meilleur suivi de ces données d'attente. Là.
OK. Moi, je veux bien, là, puis c'est toujours le problème avec les machines, là, mais le patient, là, les gens qui m'écrivent, Dr Carman, là, ils me disent tous la même chose. Ils se font placer sur des listes d'attente. Dans certaines régions, le Dr Farmer disait, le guichet fonctionne rapidement et on a une consultation assez rapide, là, dans les jours, même peut-être 10 jours, puis tu es capable de voir un psychologue ou un psychiatre. Dans d'autres cas, c'est des mois d'attente. On a beau dire on va passer par le guichet, mais si le guichet il marche mal, ça ne sera pas ben plus efficace.
Mais vous le dites, une des grosses parties du travail que je fais, là, c'est d'essayer de nationaliser les meilleures pratiques. Il y a beaucoup d'endroits où les choses se font très bien, mais c'est souvent des initiatives locales qui ne sont pas partagées dans le reste du réseau. Et moi, je m'assois régulièrement avec tous les directeurs santé mentale, les directeurs des différents programmes, pour que ceux qui réussissent mieux puissent partager leurs pratiques. Puis pour faire ça aussi, il faut suivre les données. Auparavant, personne ne suivait les données. Donc moi, je me fais un devoir de suivre les données de façon régulière, hebdomadaire ou mensuelle pour certaines données.
OK. Ce que je comprends aussi, c'est que vous l'avez dit tantôt un peu, là, vous voulez attirer des psychologues vers le réseau public.
Absolument. Je pense que, faut se le dire, là, moi, les données que j'ai au ministère, c'est qu'il y en a juste 3 000 qui sont dans le réseau public versus la grande majorité dans le réseau privé. J'ai parlé avec l'Ordre des psychologues. On parle de rendre le travail, de rendre les psychologues plus autonomes, leur donner plus de liberté clinique. Je pense que ça, c'est très important. Puis il y a aussi l'enjeu, évidemment, salarial. Il ne faut pas se cacher de ça aussi.
Un psychologue au public, ça gagne combien?
Ça commence à 50 000, puis ça plafonne autour de 90 000, qu'on me dit.
OK. Moi, j'ai une psychologue qui a œuvré au public et qui est rendue au privé et qui, en faisant à peu près la même semaine de travail, a doublé son salaire, est au-dessus de 100 000. C'est 80 puis 90 piastres. Comment vous allez faire pour convaincre quelqu'un de venir gagner peut-être 50, 60, 70 000 alors que la demande est tellement forte au privé que tu manques pas de clients?
Le point que je martèle, moi, c'est l'interdisciplinarité puis la prise en charge des patients par des équipes. C'est ça qui va rendre le travail plus intéressant. Parce que c'est beau de travailler tout seul dans son bureau, mais quand on veut voir des cas complexes, quand on veut travailler avec des équipes, ça a une valeur, ça. Aussi, il y a quand même des avantages d'être dans le réseau public là, pour les travailleurs autonomes. Il y a quand même d'autres avantages dans le public également. Mais ce que je pense qu'il faut leur dire, c'est que moi, puis même quand j'étais neurologue à Sainte-Justine, je poussais là-dessus, il faut que les psychologues puissent avoir leur autonomie clinique. Ils doivent nous dire, ben ça, c'est quelqu'un qui doit voir, que je dois voir, mais ça, c'est pas nécessairement de mon recours, de mon ressort. Et la même chose pour la durée des psychothérapies, là, qui est un enjeu, il faut leur donner un peu de latitude. Vaut mieux qu'ils complètent leur traitement en psychothérapie que faire de la gestion rigide et dire, ben, après tant de traitements, c'est fini, il faut que tu passes à quelque chose d'autre, parce que le patient, il va revenir de toute façon.
Est-ce que
Donc,
vous
ça prend cette
avez,
souplesse.
avez-vous ajouté de l'argent dans ce que vous avez annoncé hier pour les centres de désintox, par exemple? Parce que plusieurs me disent là qu'on connaît l'espèce de combinaison, le problème de santé mentale, psychose, consommation de drogue ou d'alcool, et que la solution passe beaucoup par ces centres-là également. Est-ce qu'il y a de l'argent de prévu ou c'est pas dans ce budget-là?
Non, on n'a pas investi encore dans les dépendances. Là, ce que je peux vous dire, ce que j'ai fait jusqu'à présent pour les dépendances, c'est vraiment au niveau scolaire, où on va implanter des intervenants en dépendance dans les écoles. Mais ça, c'est pour le long terme. C'est pour expliquer aux enfants les impacts de la consommation, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce que ça peut causer comme consommation, et détecter le plus jeune possible les enfants qui ont des problèmes de consommation et qui lient souvent avec la maladie mentale, par exemple.
OK. L'autre volet, ça concerne l'intervention des policiers, là. Il y a pas loin d'une centaine d'appels par jour à Montréal pour des cas reliés à des problèmes de santé mentale, des crises, psychoses, etc., etc. Le docteur Farmer nous disait hier qu'il y a quelques expériences qui se déroulent sur le territoire, là, de jumelage avec un travailleur social. Je regardais l'exemple de l'Estrie, où ça semble fonctionner. Le maire Labeaume à Québec dit « Moi, je veux pas de ça ». Est-ce que vous allez mettre de l'argent? Est-ce que ça va être un modèle québécois où chaque ville va décider comment son service de police va travailler?
Bien, on a eu plusieurs discussions là-dessus, moi avec mes collègues également, puis avec le premier ministre. On regarde comment ça se déploie dans les différentes choses, dans les différentes régions, et on y travaille encore. Hier, cependant, on a annoncé un premier investissement significatif pour des sentinelles, qui, elles, vont aller sur le terrain, vont aller voir ceux qui ont des problèmes de détresse psychologique, peuvent intervenir avec la sécurité publique. Donc, c'est un premier pas vers ce que vous appelez un modèle québécois. Mais je pense que les sentinelles ont fait leur preuve dans d'autres situations. Puis c'est ce qu'on a annoncé
OK,
hier.
mais les sentinelles, là, c'est pas avec la police nécessairement, là. C'est pas dans une voiture de police, un policier, une policière avec une sentinelle.
Non, exactement. Nous, les sentinelles sont autonomes, elles sont sur le terrain, elles peuvent travailler avec la sécurité publique, mais ce n'est pas nécessairement de ce
OK,
modèle-là
mais
qu'on
mettons, je suis un
propose.
patrouilleur qui vous écoute ce matin, là, j'arrive, je réponds à un appel de quelqu'un qui est en crise. Est-ce que j'appelle la sentinelle? Comment ça marche?
Ah ben ça, le modèle va se déployer de façon différente. Comme vous dites, le maire Labeaume, lui, il appelle ces gens de façon autonome. Il y a des endroits où la personne patrouille avec le policier. Je pense que pour le moment, on n'a pas encore défini le modèle national qu'on veut mettre sur pied.
La question, là, on vient de parler de plomberie puis de mécanique, là, mais ce qui revient aussi beaucoup de façon. Puis là, c'est une discussion légale, peut-être, qu'on va avoir, vous et moi, là. Mais beaucoup de parents disent, là, notre enfant, là, puis notre enfant, il est rendu à 25 ou 30 ans, là, il fait une crise, la police l'amène à l'hôpital, il va être gardé, il n'y a pas nécessairement beaucoup de place, on ne peut pas le garder contre son gré, on va le laisser partir. Il ne se présentera pas au rendez-vous. Le psy va l'attendre, il ne sera pas là. Il prend sa médication, il pense qu'il va mieux. Est-ce qu'il faut donner, puis là, la question philosophique, là, est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir à des médecins pour garder quelqu'un contre son gré à l'hôpital? On ne peut pas forcer quelqu'un à avoir un traitement, mais est-ce qu'on peut le garder plus longtemps que 3-4 jours? Les fameux patients là, qui rentrent puis qui sortent, là, on fait quoi avec eux autres?
Ça, c'est une question qu'il faut débattre. Puis j'en ai parlé avec l'Association des médecins psychiatres. C'est la problématique de la confidentialité et de la liberté de choix de traitement. C'est sûr que je pense que le refus de traitement, c'est quelque chose qui dépend des droits de la personne. Là. Donc, ça, il n'y a pas vraiment de question là-dessus. Le problématique, c'est vraiment comment on implique la famille dans les soins. Jusqu'à présent, quand le patient refuse, on ne peut rien faire, mais pourtant, on sait que nous, on a besoin de la famille pour nous aider, on a besoin de la famille pour faire le suivi, on a besoin de la famille pour nous alerter s'il y a des changements. Puis s'il y a quelque chose que la pandémie a peut-être affecté, c'est ça. Donc oui, il faut y repenser. On a eu deux forums déjà avec les professionnels de la santé. Là, on rentre dans des consultations avec les organismes communautaires, les organismes de parents. On veut discuter de ça avec eux pour voir s'il y a des changements qui peuvent être effectués pour inclure un peu plus la famille dans le suivi des patients psychiatriques.
Je sais que vous avez dit hier, le risque zéro, ça n'existe pas, puis personne ne va vous contester là-dessus. Mais il y a comme un désarroi chez les gens quand ils voient des individus, hommes et femmes, se transformer, devenir violents, faire des psychoses parce qu'ils ont consommé, faire des menaces. Et moi, j'ai des parents là, qui se barricadent dans leur maison, ils ont peur de leur enfant, puis la police leur répond, on ne peut pas rien faire, il y a... pas eu de menace, il n'y a pas eu de geste comme tel assez grave. Puis ces parents-là sont vieillissants. Là. Vous leur dites quoi, là, quand ils sont obligés de barrer à la porte de leur chambre parce qu'ils ont peur du gars qui est rendu à 35 ans, qui mesure 6 pieds 2, puis qui est menace, mais qu'officiellement, la police a les mains liées, puis le système de santé, semble-t-il, ne le gardera pas trop longtemps non plus.
Mais comme je dis, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer à favoriser, à améliorer l'accès aux services de santé. Puis, encore une fois, il y a des discussions à avoir au niveau de cette fameuse loi, la P38, qui là ne nous permet que d'agir s'il y a un risque immédiat ou imminent pour la sécurité du patient ou la sécurité d'autrui. Il faut avoir une réflexion là-dessus, effectivement, et voir s'il y a possibilité d'élargir cette loi-là.
En terminant, c'est une bonne nouvelle, 100 millions. J'ai juste peur, savez-vous quoi, là, qu'on se perde, comme on le fait souvent au Québec, dans des projets pilotes qui s'étirent, qu'on renouvelle sur 2-3 ans. On voit ça régulièrement dans le domaine de la santé. Puis qu'on va faire un projet pilote avec les sentinelles. Puis là, on ne sera pas sûr si ça marche. Donc, on va renouveler le projet pilote. Puis on va se perdre dans le guichet. Puis le guichet est plus ou moins fonctionnel. Je comprends votre intention. Je comprends le 100 millions. Mais je vois aller ça aussi. Puis je me dis, est-ce que vraiment les gens vont avoir accès à un psychologue dans un délai qui a de l'allure?
Écoutez, toutes les mesures sont déployées dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est la première chose. Puis deux, soyez assurés, là, puis je veux rassurer tout le monde, on fait un suivi extrêmement serré de nos données et de nos investissements. Je pense que les services sociaux ont une des grandes lacunes, c'est que ça a toujours été fait à la pièce et sans suivi. Depuis notre arrivée, je peux vous garantir qu'on fait un suivi très, très près de tous les investissements qu'on fait et on veut voir des résultats.
Je vais vous donner un exemple d'un auditeur, puis je vous laisse là-dessus, Dr. Carman. Quelqu'un qui fait partie de l'équipe de santé mentale mixte avec les policiers. On existe depuis 2012. Il y a une équipe par jour pour tout le territoire de l'île de Montréal. Une par jour. Puis on voit le nombre d'appels qui sont envoyés. On ne suffit pas à la tâche. Point final.
Exactement. Mais nous, comme je vous dis, on veut regarder avec parce qu'il y a d'autres régions comme Québec. Qui ne favorisent pas ce modèle. Nous, on veut être sûr de trouver le modèle okay. adéquat qui serait appliqué de façon nationale. Et comme je vous dis, on n'est pas non plus en faveur des projets pilotes, nous. Si l'idée est bonne, on va de l'avant. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, des aires ouvertes, qui sont des sites pour les 12-25 ans, santé mentale, justement pour que les jeunes ne tombent pas entre deux tables à l'âge de 18 ans. C'était un projet pilote. Quand on est arrivé, on l'a tout de suite... On a tout de suite décidé de le nationaliser.
Oui, mais en tout cas, mais je veux que ça marche, là, parce que j'ai un autre cas ce matin.
Moi aussi, je veux que ça marche.
Non, mais je fais une tentative de suicide, me dit une auditrice. Je me ramasse à l'hôpital de Saint-Jérôme. Après 2 semaines, on me donne mon congé. On ne me dit pas où aller. Personne ne me réfère. J'appelle au guichet, puis ça a pris des années et des années, des semaines et des semaines avant que quelqu'un me réponde. Puis finalement, je n'ai pas eu de suivi. Bon, là, vous annoncez des mesures. Moi, je veux vous croire, mais... Vous partez de loin, là.
Ah, tout à fait. On part de tellement loin qu'on n'avait même pas de liste d'attente quand on a commencé.
Ça va bien.
Donc, ce qu'on veut, c'est le sujet que vous avez soulevé là, c'est le suivi de ces patients-là. Ça aussi, il faut un meilleur arrimage entre les équipes terrain, les organismes communautaires et les salles d'urgence. Donc, ça aussi, c'est un problème sur lequel il faut s'attaquer, ce qu'on appelle les portes tournantes, là, les fameuses portes tournantes.
Merci, Dr. Carman. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Lionel Carman est le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux.